décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 15, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, eh bien, qu'a-t-on au sommaire, Manu ?
Six jolis articles, sympathiques.
Usine digitale, scandale Facebook, RGPD, messagerie cryptée, compteur Linky, les positions de Mounir Majoubi sur la protection des données personnelles, une interview, je suppose, de Juliette Rénal.
Sur France Inter, notamment, et donc il parle un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Donc Linky, il y a des choses qui remontent, mais pas que, notamment une messagerie cryptée faite par l'État. Donc il y a des choses intéressantes dont on reparlera sûrement dans les semaines qui viennent.
ZDNet, Linux est sous votre capot. Un article de Steven J. Vaughan Nichols.
Ça parle de voitures, véhicules en tout genre, et de Linux et logiciels libres. Comme quoi, utiliser des logiciels libres, c'est pratique pour les industriels notamment. Ça leur évite d'avoir à tout refaire en partant de zéro. C'est quand même plus sympa.
Vice, l'homme qui voulait soigner sa maladie génétique dans son garage, un article de Sébastien Wesolowski.
Alors j'ai hésité à le mettre parce que c'est quand même un peu étrange, ça sert un peu de l'habitude. C'est un gars qui va devenir aveugle, c'est ce que disent ses médecins. Donc il se bat contre ça et bien, il est en train de se travailler à un laboratoire dans son garage pour améliorer sa rétine. Donc il y a un vrai effort possible, il va peut-être aboutir à des résultats. Et surtout c'est qu'il a ouvert tout ça sur internet, il a demandé des contributeurs et il en a. Il a plein de gens qui veulent l'aider et qui contribuent à travailler à des productions de génétique, hein, c'est compliqué. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais
ça fait des années qu'il y a du libre et de la génétique avec des gens qui font ça dans leur coin. Alors c'est minoritaire, hein, mais ça existe depuis longtemps.
Un minimum dangereux. Il y a des chercheurs qui ont été interviewés, qui ont répondu, on a posé des questions sur le sujet, ils ont l'air de dire qu'il risque sa vie, le gars, parce qu'il va falloir qu'il s'injecte des trucs dans les yeux pour améliorer sa vue. Mais ça n'empêche, c'est intéressant, c'est une démarche qui est assez constructive, même si dangereuse.
Global Security Mag, Mozilla dresse le bilan de la santé d'Internet à travers l'Internet Last Report 2018, un article de Mozilla.
C'est quelque chose qu'on avait déjà abordé l'année dernière, il me semble. Donc c'est Mozilla, les gens qui produisent Firefox et qui sont en train d'étudier un petit peu ce qui se passe sur Internet, notamment Facebook et autres fuites de données. Donc ils ont fait tout un rapport, il y a des choses qui ont l'air d'être assez intéressantes à creuser.
The Conversation, Facebook et le paradoxe de la vie privée, un article de David Glantz.
Ça ne coûte pas assez cher de perdre ses données sur Internet, les gens les mettent volontiers sur le réseau social, il semblerait, d'après l'article, qu'ils y trouvent plus d'avantages que de coûts, et pourtant, on leur a demandé, voilà, combien vous vendriez vos données, à chaque fois, c'est quoi, $15, $25, je me sens que c'était en dollars, hein. Pas énorme, et surtout, les gens, globalement, se fichent un petit peu de ce qu'on fait avec, derrière. Je suis sûr que là aussi, ça va remonter, parce que finalement, on voit bien que Facebook, il y a plein de problèmes malgré tout.
Next Impact, Pôle emploi nous ouvre le code source de son calculateur d'allocation chômage. Un article de Xavier Berne.
Donc c'est Next Impact qui a fait un effort, une CADA, une demande d'ouverture aux administrations, et ils ont obtenu du code source de Pôle emploi. C'est pas mal, il y a eu les impôts, il y a eu l'éducation nationale, mais là Pôle emploi, c'est une autre rubrique, parce que maintenant, officiellement, le code source, c'est un document administratif communicable, donc on peut le demander à l'État, il doit nous le donner.
Donc aujourd'hui, on va parler du RGPD, on l'avait annoncé la semaine dernière. On recule un peu depuis un petit moment parce que c'est
peur,
des gros morceaux quand même.
C'est un énorme morceau qui arrive.
Ça par fait contre, peur. C'est un morceau très important. De quoi s'agit-il ?
Qu'est-ce que ça veut dire RGPD ?
C'est le registre de protection des données personnelles.
Règlement général sur la protection des données. Mais t'as dû prendre la version anglaise en plus, ouais. Non ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ah, mais j'ai la page sous les yeux.
Il y a RGPD ou GPDR en anglais.
Je triche effectivement. Voilà.
Donc c'est un règlement européen.
Donc c'est plus fort qu'une loi d'une certaine manière, ça s'applique de manière directe.
C'est en cours de discussion en France, c'est-à-dire que pour s'adapter et être en conformité avec ce règlement, nos députés et sénateurs sont en train de discuter la loi. Manifestement, on est vraiment à la toute fin.
Donc oui, ça sera là, les textes de loi ont été publiés, ça sera voté le 14 mai, mais normalement, du coup, il n'y aura pas de changement. Le texte est définitif, on va dire, sauf coup de poker.
Voilà, et l'objectif, c'est de protéger les données personnelles, un truc vraiment central par rapport à notre sujet de conversation.
Sachant qu'il y a des dates qui sont en jeu, et je crois qu'en mai, il est supposé s'appliquer les sanctions du RGPD.
C'est ça, le RGPD est déjà censé s'appliquer depuis quelques années, puisque quand il avait été voté par l'Europe, il fallait déjà le mettre en œuvre. Et les sanctions, voilà, et les sanctions arrivent à partir du 25 mai.
Donc c'est là que ça commence à taper au portefeuille, et si on n'applique pas le RGPD, on risque de payer de l'argent.
Et puis surtout que c'est des montants assez colossaux, puisqu'avant, c'est un peu le problème que les amendes étaient assez ridicules. Hein. On parlait de 10 000, 20 000, les 200 000 euros maximum, et c'était à peine le budget des apéros de Microsoft.
Ça, c'est quand la CNIL n'était pas contente et qu'elle tapait sur les entreprises comme elle pouvait.
C'est ça. Et maintenant, c'est 4% du CA mondial consolidé, ou 20 millions d'euros minimum. Et du coup, ça fait très mal aux entreprises qui vont forcément se bouger. Ouais, parce que,
parle du chiffre d'affaires.
En chiffre d'affaires et pas en bénéfice.
Donc ça montre les enjeux et ça montre que le truc est important.
dedans.
Mais ça répond pas au problème.
Alors, il y a pas que ça. Il est dedans. Donc c'est toute une série de règles. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc avec des obligations pour tous les acteurs qui gèrent des données personnelles et donc des droits pour les utilisateurs avec des objectifs. Et il y a pas mal de choses qui changent vraiment la donne dans ces règlements. Déjà notamment le fait que c'est un cadre harmonisé au niveau européen et qu'en gros l'idée c'est de faire converger les règles pour qu'elles soient applicables à peu près à l'identique partout en Europe.
Voilà, il y aura plus les exceptions en disant oui mais les serveurs ils étaient aux États-Unis ou mon service était aux États-Unis ou donc c'est pas soumis aux lois françaises ou autres. Là c'est à partir du moment où l'entreprise fournit un service en Europe ou touche un citoyen européen, et ben le RGPD s'applique.
Ça, c'est l'extraterritorialité.
C'est ça.
Donc ça, c'est un point vraiment important. Je sais que ça m'arrivait souvent en tenant des stands ou en faisant des conférences. Et les gens se disent « Ouais, mais moi, je lui fais un procès. » Et je lui dis « Mais bon, est-ce que tu connais un bon avocat californien ?» Et donc déjà, d'entrée de jeu, ça, voilà, ça le calmait dans ses ardeurs. Je n'avais pas réfléchi qu'il lui fallait au moins 10 000 euros pour lancer son procès. Mais voilà, c'est un point énorme. C'est absolument colossal. Puisque jusqu'à maintenant, les États-Unis, notamment, disaient « Nous,
on répond à
notre loi. »
Et donc là, toutes les grosses entreprises, les GAFAM, dont on parle régulièrement, eh bien là, ils risquent d'être impactés et a priori, ils ont commencé à appliquer le RGPD en interne.
Oui, bah oui, ils le voient venir de loin, je pense. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est que comme on est quand même dans une période où ils sont en train de rentrer dans le rang déjà depuis un petit moment et d'arrêter. On a parlé la semaine dernière avec les vidéos sur YouTube, etc., mais c'est pas les seuls.
Et puis, délai de Facebook, le hashtag qui marche bien.
Et bah, après, il y a aussi pas mal de communication de la part de Google et de Facebook qui commencent déjà à annoncer que leurs règles vont changer à partir du 25 mai, pile poil. Et donc, ils vont devoir revoir leurs conditions générales d'utilisation. Redemander le consentement, on va en parler justement
et derrière. Et ben voilà, parce que ça fait partie des trucs importants qui arrivent avec le RGPD, il faut avoir un consentement explicite et positif.
C'est-à-dire que les gens doivent dire « oui, oui, je veux bien », donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit de le cacher au milieu des conditions d'utilisation de 12 000 pages.
Ou même de le mettre par défaut.
Oui, et on n'a pas le droit non plus de mettre des trucs trop génériques, c'est-à-dire que le consentement doit être sur un traitement spécifique et une collecte de données spécifique, donc on arrêtera de dire « on collecte vos données puis on verra ce qu'on en fait derrière », vous autorisez à consentir à tout et n'importe quoi, donc il faudra demander un consentement par traitement, et donc déjà ça va aussi faire très mal puisque fini les lettres blanches signées auprès des GAFAM.
Ça me paraît compliqué à mettre en place, je suis curieux de voir comment ça va se décliner tout ça.
Donc le droit à l'effacement.
Il y avait le droit à l'oubli il n'y a pas si longtemps.
Le droit à l'effacement, ça existe déjà dans loi informatique et liberté. Tu as le droit de dire je veux que vous effaciez les données que vous avez sur moi.
Mais là il y a une obligation et en plus c'est transitif, c'est-à-dire que ça s'applique même aux sous-traitants ou autres, et donc là pareil, il faudra avoir des preuves et apporter des preuves qu'on a bien fait la suppression. Donc ça risque d'être aussi une jolie partie de plaisir pour les GAFAM ou autre.
Ouais, parce que tu dis transitif, c'est qu'en gros, quand tu as donné des informations personnelles, tu n'es pas sûr que c'est la personne à laquelle tu les as données qui les conserve.
Oui, c'est ça. Ils ont peut-être aussi des sous-traitants, déjà qu'il faudra aussi qu'ils déclarent et qu'ils demandent le consentement, etc. Mais ça veut dire que ça doit propager la suppression, y compris à toute la chaîne, et que la donnée doit vraiment disparaître.
Tu parles des GAFA, mais moi je pense aussi à tous les trucs de pub qui t'appellent et qui te harcèlent au téléphone pour te vendre des cuisines et des conneries comme ça.
Quoi ? Le RGPD va s'appliquer à eux ? Non, c'est inapplicable chez eux.
C'est des données personnelles. T'imagines, toute la chaîne, parce qu'ils se revendent les trucs, ça circule dans tous les sens et tout, ils en ont rien à foutre.
Mais là, ils n'ont même plus le droit de les revendre, mais s'ils revendent, effectivement, il faudra qu'ils assurent la traçabilité pour faire la
suite. La prochaine fois qu'ils m'appellent pour des fenêtres, les gars, je vais leur demander s'ils sont hors RGPD.
Moi, je reçois des mails de la FNAC, des mails publicitaires de la FNAC, sur mon mail perso, parce que j'ai un mail pour les contacts commerciaux, et un mail que je ne mets jamais dans les trucs commerciaux. Et je reçois des mails de pub de la FNAC sur mon mail personnel, alors que je ne suis pas client de la FNAC. Voilà, si je peux savoir d'où ça vient et comment ils en sont arrivés à me pourrir mon mail que je ne donne pas, je suis bien curieux de le savoir. Autre principe, le droit à la portabilité des données personnelles. Ça aussi, c'est absolument énorme et considérable.
C'est même trop gros, moi, je trouve.
Mais c'est assez violent.
De quoi il s'agit, déjà ?
Alors, la portabilité, c'est qu'en gros, on pourra demander à n'importe quelle entreprise de donner toutes les données qu'elle connaît sur nous, tout ce qu'on a pu faire avec eux, votre historique de navigation, vos photos, enfin, tout ce que vous mettez à disposition et qui est lié à une donnée personnelle.
Alors, ça existe déjà chez Facebook. Il y avait un Autrichien qui avait demandé, en passant par l'Irlande, à avoir un export de tout ce que Facebook connaissait sur lui, mais il a galéré. Il s'est obtenu des kilos de papier.
Palettes complètes de données. Et puis, même maintenant, aujourd'hui, ils ont automatisé le truc, que ce soit Facebook ou Google, il y a un bouton pour demander l'export de données. Ils disent bien que, attention, on va générer beaucoup de données, donc ça va prendre beaucoup de temps, voire plusieurs jours. Et effectivement, on se retrouve derrière avec des archives de plusieurs gigas et l'intégralité de votre vie dedans.
Alors, c'est supposé être structuré, c'est-à-dire qu'en gros, en théorie, on pourrait les réutiliser pour mettre ces données personnelles ailleurs.
C'est un peu le but, là. C'est pour ça qu'on dit portabilité, c'est partir d'un prestataire pour aller vers un autre. Après, en pratique, sur des choses comme Google ou Facebook, on voit quand même mal vers quoi on va pouvoir aller.
Voilà, mais ça évite au moins le truc de ce gars-là que tu citais qui s'est retrouvé avec toutes ces données sur papier, quoi.
Mais par exemple, pour un fournisseur fournisseur d'énergie ou autre, bah, du coup, vous récupérez vos données d'un côté, vous pouvez les réinjecter de l'autre, ou une assurance ou autre. Normalement, ils devraient être compatibles entre eux.
Le profilage. Donc, ça, c'est l'idée de prendre des données personnelles pour mettre les gens dans des petites cases. On en a parlé quand, il y a 15 jours, quand on a parlé notamment du système de notation sociale en Chine. Là.
Oui, mais on en parlait aussi pour les banques et les assurances, parce qu'elles avaient peut-être besoin, enfin, elles ont besoin souvent de noter leurs clients et de savoir un peu dans quelle case ils rentrent. Mais effectivement, la Chine, c'était le bon exemple il y a quelques temps.
Mais là, le RGPD va pas interdire le profilage directement. Par contre, elle va demander à ce que tout soit documenté, bien propre, tenu à jour dans des registres, que la donnée soit bien indiquée partout.
Ils ont l'air de dire que les traitements automatisés qui font ce profilage vont être un peu limités quand même.
Voilà, après, il y a des limites, effectivement. Vous n'avez pas le droit, ce qui est déjà interdit en France, par exemple, le genre, la religion ou autre, on n'a pas le droit d'avoir d'enquête de ce type-là, où la RGPD est encore plus dure avec ce type de traitement. Mais de manière générale, vous n'aurez plus le droit de dire, je sais pas où sont les données, ou qu'est-ce qu'on en fait, ou à quel but. Alors, tout doit être documenté dans des registres.
Profilage, moi, ça me fait penser aux gars qui rentrent à l'université, qui ont fait leur bac, et en fonction de leurs notes, en fonction de certains critères, ils rentrent dans des cases. Ça, c'est un profilage. Et donc, a priori, ce serait plus tout à fait dans ce cadre-là.
Il y a aussi le principe, et ça rejoint ce que tu disais, donc, de protection des données dès la conception. Et donc, il va y avoir des contraintes fortes sur tous les gens qui gèrent des données personnelles, que ce soit des entreprises, des associations, des choses comme ça, parce qu'il faut que les systèmes soient conçus à la base avec cette idée de la protection des données.
Je me gausse.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ne savent pas du tout comment on fait.
Ah bah non, mais c'est clair.
Tout doit être documenté, c'est-à-dire que le jour où la CNIL fait une descente, elle dit montrez-moi votre registre machin, et si les gens sont incapables de le produire, eh ben ils sont quand même très très mal.
Et en plus là, sur l'état de l'art ou autre, il va falloir prouver qu'on a bien fait une étude en fait avant de faire le traitement pour montrer que on a mis en œuvre dans des coûts et des moyens cohérents avec la finalité de la. On va pas vous demander la lune si c'est juste pour traiter trois données, mais en tout cas vous allez devoir publier un document comme quoi effectivement vous avez étudié pourquoi vous avez fait tel choix et pas tel autre, pourquoi vous avez pas pu mettre en place tel système par l'état de l'art, et ça bah pareil la CNIL en cas de contrôle vous le demande. Et si vous n'êtes pas capable de le donner, ben, ce sera amende.
Je me marre bien, c'est comme le point suivant, les notifications en cas de fuite de données, je doute que les gens le fassent vraiment, parce que s'il y a une fuite de données, ça veut dire qu'on a, on a merdé, carrément, mais je pense qu'il y a des gens, ils ne le savent même pas, et quand ils le savent, et ils vont tout faire pour le cacher.
Ah, mais là, ils n'auront pas le choix, parce qu'ils ont 24 heures pour prévenir la CNIL, et 48 heures pour prévenir le client.
Ils ont soi-disant pas le choix, en tout cas, il ne faut pas qu'ils se fassent choper.
Voilà, c'est ça.
Donc la nomination obligatoire d'un délégué de protection des données.
Un DPO.
DPO comme Data Protection Officer, qui sera en gros un référent dans les structures, pas dans toutes les structures.
C'est quoi, c'est les entreprises de plus de
250 salariés ou ceux qui vont traiter des données trop critiques justement, ou qui ont l'obligation d'en avoir
un. Un gars qui va être responsable de ça dans l'entreprise et il va répondre à la CNIL quoi.
Il répond à la CNIL, il n'a pas d'ordre à recevoir de la direction directement, il doit être un lanceur d'alerte sur ces sujets-là. Il est censé être lanceur d'alerte et avoir son mot à dire et tout accès aux données doit être justifié auprès du DPO.
Donc après, on a la notion d'avoir des études d'impact, mais ça tu l'as déjà mentionné. Donc les sanctions plus importantes, on l'a dit également. Donc
et c'est vrai que
20 millions d'euros.
On tape au portefeuille.
Voilà,
quoi.
Et, ou sanctions sur le chiffre d'affaires. Et donc du coup, là, on arrive sur des sommes qui peuvent être absolument astronomiques.
Je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, là, un petit artisan ou un petit directeur de PME, il s'en foutait un peu parce que ça, il risquait pas grand chose.
Je pense qu'il va continuer à s'en foutre et qu'il va dire ça tombera jamais dessus.
Mais les grosses entreprises, les GAFAM.
Les GAFAM vont aussi moins rigoler avec ça. Mais malheureusement, elles sont déjà plus ou moins prêtes.
Et peut-être même qu'elles accueille ce genre de règlement avec plaisir parce que peut-être que ça empêche à d'autres concurrents de s'installer. Parce que ces entreprises, a priori, elles vont y arriver.
Typiquement, aujourd'hui, on a une entreprise française qui est Criteo, qui est le leader un peu mondial de la pub et risque de prendre vraiment beaucoup, beaucoup de plomb dans l'aile et peut-être en faveur des GAFAM parce que du Google Analytics risque d'être plus facilement compatible RGPD que du Criteo bien français. Quoi. Donc
oui,
effectivement, ils vont perdre beaucoup de concurrents, vont mourir parce que le RGPD sera inapplicable pour eux.
Tout l'écosystème des publicitaires, c'est beaucoup d'intermédiaires et de chaînes de transmission de données personnelles, et eux, en théorie, ça saute.
Ça m'attriste. Hein. Je suis vraiment, vraiment triste pour eux.
Ah, c'est triste.
Très triste pour les publicitaires. Donc, on a également quoi d'autre ? La création d'un comité européen de la protection des données, donc une institution européenne qui va gérer ça. Et puis, l'élaboration de codes de conduite, enfin bref, et des trucs pour aider.
Les codes de conduite, c'est pour surtout qu'on ait conscience un peu de comment il faut s'y prendre à gérer tout ce truc-là. Parce que Minerius, c'est assez nouveau. Donc, on ne va pas savoir, les entreprises, elles ne savent pas comment mettre en place ce truc. Je sais, chez mes clients, les gars, ils font des réunions, ils essayent de discuter entre eux et ils savent pas.
Ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, c'est quand même hyper positif. Donc après, il y a eu des discussions. Quand on rentre dans le détail, il y a toujours plein de machins en disant oui, alors là, on a exception, ceci, cela. Il y a également la notion de possibilité de faire des actions de groupe qu'on n'a pas citées. et qui est importante.
Mais qui était déjà dans la loi française, ouais. En fait, et il n'y a pas eu de changement là-dessus majeur. Quoi.
Mais il y a des attentes, hein. Il y a des associations qui sont...
Bah, la Quadrature du Net qui a lancé ça, hein, qui vient de dire bah, rejoignez-nous, on fait une action de groupe contre les GAFAM, puis on attend le 25 mai, et puis s'ils ne sont pas conformes, on leur tombe directement dessus.
Donc le RGPD, ça va changer le paysage. On en reparlera très probablement. En tout cas, ça va maintenant rentrer un peu dans nos sujets.
On va en rediscuter. Il y aura forcément des articles qui vont apparaître, ne serait-ce que après le 25 mai.
Comment ça se passe après le 25 mai, puis les premières sanctions, ça risque d'être assez fun.
Je pense qu'ils vont y aller mollo quand même. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.